Bonjour, bienvenue à Aime l'été. Ici Chantal Lavoie, jeudi 27 juillet. C'est un plaisir de vous retrouver. Une autre émission qui nous entraîne dans différents univers. Nos jeunes chroniqueuses et recherchistes seront au micro aujourd'hui pour nous entretenir de sujets liés à leur quotidien et à leur réalité. Nous accueillerons tour à tour Anaïs Sabourin et Aya Jennifer Ando. Nous allons discuter également d'un sujet qui touche les gens atteints de surdité. Mais la musique sera également au rendez-vous de jeunes talents de chez nous, venus d'ailleurs, qui nous entraînent dans leur univers musical. Et au cours de la prochaine heure, je vous invite donc à être des nôtres. On oscille entre sujets plus sérieux et un peu de légèreté. Voici Aime l'été. Et aujourd'hui, au menu de l'émission, on reçoit Charline Savard des services linguistiques CB. Charline Savard, qui est une personne malentendante, qui sera accompagnée de son interprète. Il sera question des différents services offerts pour aider le plus grand nombre de personnes sourdes à intégrer le marché du travail. Et nos jeunes chroniqueuses, Anaïs Sabourin et Aya Jennifer Ando, seront au rendez-vous. Anaïs viendra nous parler du coût du handicap. Étant elle-même en fauteuil roulant, elle en sait quelque chose. Et un sujet plus léger, Aya s'intéresse aujourd'hui à la chevelure des personnes noires. Elle en connaît pas mal sur le sujet, étant originaire de la Côte d'Ivoire. Mais d'abord, dans un instant, j'accueille une jeune chanteuse qui vit au Québec depuis 2015, qui est originaire de la Martinique, Lia Shirley, qui a entrepris une belle carrière. Nous allons la retrouver dans un instant. Suivez-nous à Aime l'été. Et oui, on la retrouve en studio avec nous, Lia Shirley, artiste afro-caribéenne qui a remporté bien des prix finalement. Et c'est ça, elle est originaire de la Martinique. Bonjour. Alors oui, vous êtes installée. Ben c'est ça, on va juste régler le problème du micro. Alors voilà, vous avez monté le son peut-être. Oui, parfait. Alors c'est ça, parce que vous êtes tout juste à côté de moi. Alors il n'y a pas de raison qu'on vous entende pas. Mais c'est ça. Donc c'est ça, vous êtes ici. En fait, depuis 2015, mais déjà depuis 2016, vous avez commencé à faire de la musique. Mais en fait, c'est une passion de jeune fille. C'est-à-dire que dès le jeune âge, finalement, vous vous êtes du moins intéressée aux mots, parce que quand vous étiez jeune, vous faisiez de la poésie.
Oui, c'est vrai, effectivement. Le chant, c'est venu comme bien après. Je pense que quand j'étais adolescente, je pense que là, on m'entend, je vais rapprocher le micro. Ouais, voilà,
c'est parfait.
Donc, du coup, ouais, la musique, c'est venu bien plus tard quand j'étais adolescente, quand je devais avoir 15-16 ans. Les premiers peines de cœur, etc.
Eh oui, c'est ça, c'est sûr, ce sont nos sujets préférés à l'époque.
Oui, bon, c'est
en
vrai.
Enfin, du moins incontournables. Mais
c'est vrai.
Cela dit, c'est ça. Alors, en fait, vous étiez intéressée par l'écriture. Alors, vous écriviez de la poésie toute jeune, mais tranquillement, ce qui arrive au secondaire, c'est que finalement, ben, les gens, votre entourage, vos amis, vous ont dit, ben, pourquoi tu ne chantes pas ça, finalement?
Ben, exactement. C'est ça. Exactement ce qui s'est passé. Comme c'est plus ma mère, elle me disait comme « Ah, mais pourquoi tu chanterais pas ?» Puis moi, j'ai jamais eu la prétention d'avoir une grande voix ou une belle voix, comme je me considère pas comme grande performeuse. Mais je me suis dit comme « C'est vrai que j'ai des choses à dire, comme j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, donc on va essayer, ça fonctionne. » Tant mieux, ça fonctionne pas, au moins j'aurais essayé.
Et puis finalement, ben, vous aviez quand même, bon, au départ, certaines sources d'inspiration, mais comme vous venez de la francophonie, alors les Céline Dion et compagnie, ben, ça faisait partie aussi de votre réalité, là.
Oui, c'est vrai. Surtout à l'époque de mon adolescence, j'écoutais beaucoup de Garou, Céline Dion.
Tous ces artistes québécois et d'autres français, Patrick Bruel, enfin.
C'est vrai. Pas trop Patrick Bruel, mais c'est vrai que bizarrement, j'écoutais vraiment plus de Québécois sans le savoir.
Ah, d'accord.
Sans le savoir, parce que c'est vraiment tard que j'ai appris que c'était des Québécois. Là, je ne le savais même pas.
Bon, alors finalement, c'est ça, mais rapidement, ben, évidemment, vous vous êtes abreuvé à d'autres sources d'inspiration, bien sûr. Et puis, au fur et à mesure, ben, de vos premières histoires d'amour et de vos sorties dans les bars un peu plus vieilles, ben, c'est ça. Là, les choix musicaux ont changé, finalement.
Oui, c'est là que j'ai décidé de plus m'orienter vers ma culture. Du coup, qui est plus dans le domaine du zouk.
Ouais,
et
quand
je suis arrivée au Canada, il y a pas mal d'Haïtiens ici au Canada.
Ben,
y
a pas c'est mal... ça vous a surpris.
vraiment beaucoup, là. Et puis, je me suis dit, OK, donc la communauté noire principalement ici, c'est haïtienne.
Ouais.
Donc, faut s'intégrer. Donc, ok, on va mettre un peu de compas dans la musique, puis le zouk compas est né.
C'est ça, le zouk compas. Alors, vous allez me dire un petit peu tantôt de quoi il s'agit, mais vous êtes passé par la France aussi, je pense.
Ben, je suis née à Lyon, dans le sud de la France.
Ah, c'est ça, d'accord. Oui, ok, c'est vos parents, finalement, qui sont partis de la Martinique.
Oui, exactement. Comme moi, je suis vraiment comme pure française, mais juste originaire de la Martinique.
Ah, je comprends, c'est ça. Et là, on va entendre en sourdine, c'est votre petite fille, finalement,
oui.
de 6 mois qui est avec nous, et qui est toute douce. Là,
oui,
qui...
elle est calme.
Mais alors, si jamais vous entendez du gazouillis d'enfant, ben, c'est pas une hallucination auditive, c'est vraiment parce qu'on a un enfant en studio. Alors, voilà. Et puis, ben, elle fait ses premières armes en entrevue, de toute façon.
Ben oui, c'est ça. Elle fait ses premières armes. Elle suis maman de partout, au studio, etc.
Donc... Alors, vous allez en faire une star, peut-être, qui sait, hein?
On ne sait pas. On ne sait jamais ce que les enfants deviennent plus tard. Donc,
Voilà, puis ça part du très jeune âge. Alors, ça peut l'influencer, cette entrevue d'aujourd'hui. Cela dit, bon, effectivement, vous allez vous inspirer de musique afro-caribéenne. En fait, vous faites non seulement les textes, mais bon, la musique, qu'en est-elle?
Non, la musique, c'est pas
c'est
moi.
C'est pas vous, hein,
non,
c'est ça.
Non.
Mais en fait, évidemment, vous avez quand même cette musique constamment en tête. C'est-à-dire,
oui.
vous écrivez vos mots, se transposent idéalement avec cette musique, bien entendu.
Oui.
Donc, puis des textes qui sont inspirés par la vie, bien sûr, des gens qui vous entourent, hein?
Oui, effectivement, tout à fait. En général, ben, je m'inspire de mes amis, de ma famille, même de situations que je peux entendre dans l'actualité. Donc, c'est vraiment ça. Comme j'aime bien me baser sur des histoires vraies pour écrire, parce que pour moi, la musique, c'est quelque chose d'authentique. Puis je veux que ça laisse paraître dans mes textes.
Oui, c'est ça. Mmh. Évidemment, les relations amoureuses, c'est important pour vous. Mais en fait, vous vous inspirez de d'autres artistes aussi. Je pense à d'autres artistes. Je pensais Dory, là, qui
oui.
est originaire de la Martinique. Elle aussi, bon, elle a commencé quoi, autour de à peu près au même âge que vous.
Ben, Dory, elle a commencé sa carrière comme un peu plus tard que moi. Je pense que c'était 2017-2018. Comme
ouais.
moi, j'ai commencé peut-être un peu avant elle. C'est vrai qu'elle, elle a beaucoup plus de notoriété que moi. Mais
ça viendra.
Mais
ça
son
viendra,
succès, franchement, son succès est mérité. Son succès
ouais.
est vraiment mérité.
Mais c'est ça. Et donc, beaucoup des thématiques. Est-ce qu'on pourrait dire que, bon, qu'il y a une sensibilité? Bon, je pense que vous. Ben, évidemment, je vous ai écouté. Là, il y a des textes qui portent notamment sur la famille, les enfants, entre autres. Hein,
oui.
Ça vous touche. Vous avez déjà une petite fille. Bon, bien sûr, dans le clip que l'on peut voir, la jeune fille, bon, je pensais que c'était peut-être votre fille, finalement, mais bon, elle est plus âgée, c'est sûr, mais c'est ça. Donc, l'amour maternel, bien entendu. Alors, c'est pas que juste les relations amoureuses.
Non, oui, effectivement, c'est vrai que depuis vraiment jeune, je pourrais même dire depuis même mon adolescence, j'ai toujours su que je voulais devenir maman, que je voulais avoir une vie de famille, etc. Donc pour moi, c'était important. Je sais pas comment expliquer, mais on va dire que je suis très appel aux auras, etc. Et je pense que quand on dit des choses et qu'on le pense fort, ça arrive.
D'accord. Alors vous mettez ça comme dans l'univers, hein, c'est un peu ça qu'on dit.
Exactement.
Voilà. Et
donc,
puis ça peut se réaliser, bien sûr.
Exactement. Et du coup, ben, le titre que vous parlez qui s'intitule Par amour, où on voit justement la petite fille avec son père, etc. Puis dans le clip, on voit que j'ai emménagé chez eux, puis tout. Et franchement, ben, c'est un appel à l'univers parce que ce titre-là est sorti en 2018.
Ouais.
Et 2023, ma fille, elle est là.
Et voilà, ben c'est ça. Alors, c'était prémonitoire, comme
exactement.
On dit. Alors, effectivement, et puis donc, est-ce que vous diriez, bon, que c'est... ben, évidemment, c'est l'amour, c'est les relations amoureuses, c'est universel, forcément.
Oui.
Mais est-ce que, culturellement, c'est aussi important comme thématique, la famille, les relations amoureuses? Ben, j'entends à votre âge, bien entendu, pour les jeunes, c'est ça, de votre âge?
Ben, écoutez, moi, je dirais que le thème de l'amour colle, on va dire, à mon style musical, parce que la musique zouk compas, en général, ben, quand on écoute vraiment les paroles, mis à part la mélodie qui est très entraînante, et ben, c'est vraiment basé sur des histoires d'amour. ou de rupture.
Oui, oui. Mais c'est souvent le cas. Mais je veux dire, bon, il y a toutes sortes de thématiques. Évidemment, bon, je ne sais pas moi si on... tu sais, je ne veux pas généraliser, mais c'est sûr que même ici au Québec, je pense aux artistes de la relève, bon, il y a des thématiques qui sont propres à cette génération-là
oui,
aussi.
Oui, c'est vrai.
Pas nécessairement relations juste amoureuses, mais plein d'autres choses aussi qui les préoccupent. Mmh. Alors, mais c'est ça. Et puis... Donc, vous avez été aussi fortement supporté par votre famille. D'ailleurs, il y a une belle anecdote concernant votre premier, l'enregistrement que vous avez fait dans un studio. C'est un peu grâce à votre mère qui vous étiez, je ne sais pas, dans une file d'attente et puis elle a entendu que quelqu'un ouvrait un studio.
Mais comment vous avez ça?
Ben, je sais pas, je suis documentée.
Ah oui, je vois bien. Ben, effectivement, je devais avoir 14 ans. Et ma mère était à la poste, à la file d'attente, elle allait poser son colis. Puis, elle entend une conversation de deux jeunes qui disent « Ah oui, il y a un studio qui a ouvert. » Puis, c'était comme à même pas 5 minutes de chez moi. Puis, elle dit « Ah, excusez-moi de vous interrompre. J'ai vu que vous aviez... » Quoi, j'ai entendu que vous aviez un studio d'enregistrement. Puis, ma fille, elle chante et tout. Elle a vraiment du potentiel. Est-ce que ça vous dirait comme de l'entendre? Elle n'a même pas eu le temps de poser son colis, elle est rentrée à la maison. Puis elle m'a dit « Habille-toi, on va au studio ». J'étais comme « Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes ?» comme... Moi, j'étais vraiment pas prête à ça, mais au final, ben, c'était une bonne chose parce que ben, grâce à elle, maintenant, c'est là où j'en suis. Donc,
Ben voilà, ça commence à quelque part. Puis souvent, les mamans ne sont pas loin derrière.
C'est vrai. J'ai vraiment de la chance de l'avoir.
Alors, ça a été une belle expérience, c'est une jolie anecdote, finalement.
Oui.
Les défis auxquels vous avez dû faire face, finalement, par la suite, bon, parce que, évidemment, de cette première expérience en studio, après ça, bon, alors, comment tout s'organise par la suite? Ça a été difficile?
Ben, alors ça, cette expérience-là, déjà, ça s'est passé en France.
Okay.
Puis comme je vous disais, comme j'avais comme 14-15 ans, donc en vrai, c'était assez jeune pour débuter la musique. Puis je trouvais que j'avais pas encore la maturité nécessaire, le professionnalisme. J'avais pas les contacts aussi parce que c'est surtout un business de contacts. Si on n'a pas les bons contacts,
c'est vrai.
On peut vite se faire avoir.
Oui.
Chose qui s'est passée quand je suis arrivée.
Oui, être bien entouré, c'est le conseil que vous donnez à tout le monde. Hein. Puis c'est ça s'est peut-être pas passé. Vous avez quand même une certaine mauvaise expérience. Ben, comme bien des chanteurs aussi, hein.
Oui,
il faut faire nos
vrai.
Armes là-dedans. Mm. Et puis, il faut distinguer finalement ceux qui sont susceptibles de bien
nous encadrer. Exactement.
Voilà.
Puis du coup... Mais c'est passé par de la maturité, puis aussi le changement de mes textes, parce qu'avant c'était très enfantin, mais maintenant que je suis devenue une femme adulte, donc maintenant ben, forcément mes textes ils ont évolué.
Ouais.
Et ben, comme je vous dis, hein, ça prend le fait d'être entouré, parce que ben, si on n'a pas la bonne équipe qui n'arrive pas à comprendre la vision que vous avez de votre musique et là où vous voulez vous en aller, ben, c'est compliqué en fait.
Et oui.
Mais là, ça va, j'ai trouvé une bonne équipe.
Faut tous ramer dans le même sens, hein,
oui,
dans la même direction.
Exactement.
C'est-à-dire. Alors donc, c'est ça. Donc, votre carrière a vraiment pu décoller à un moment donné. Alors, c'est vraiment, bon, quand vous avez tout juste sorti, finalement, ben, en fait, votre premier single ou enfin votre premier album, en quelque sorte.
Ben, en fait, le tout premier single s'intitulait « Au bout de mes rêves ».
Ouais.
C'est là où je me suis fait repérer justement par un producteur haïtien. Et suite à ce projet-là, j'ai sorti un autre projet qui s'intitulait En Ouzouké avec un chanteur qui s'appelle Richie J.
Oui, qui est très connu en Haïti.
Oui,
et qui est venu au Canada d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Puis ben, c'est vraiment lui comme qui m'a approuvé, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, qui m'a approuvé, qui m'a dit comme « Ok, t'es vraiment legit, entre guillemets, de faire de la musique en soi. » Puis après, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin toute seule.
C'est ça, lui, il vous a comme, autrement dit...
il m'a donné un coup de pouce.
Il vous a donné un coup de pouce, puis bon, il a validé que vous aviez votre place finalement.
Exactement.
Dans ce métier-là. Donc effectivement, quelqu'un qui est connu non seulement en Haïti, mais un peu partout, et puis il est venu s'établir effectivement au Canada. Alors voilà, et puis c'est ça. Donc là, bien sûr, tout s'est enchaîné par la suite. Vous avez gagné de nombreux prix, Lia.
Ben, gagné, j'en ai gagné qu'un seul techniquement, mais nominé à plusieurs
choses. Oui, c'est ça, vous étiez en nomination sur bien des concours finalement.
Oui, donc du coup, il y a eu le JMFF Award, mais par contre qui a tenu juste une année, puis c'était l'année où j'étais nominée dans la catégorie musique francophone. Ça, c'était en 2017, si je ne me trompe pas. Puis après ça, avec le titre Par amour, j'ai été nominée au KMA Award de Toronto, où j'ai remporté le prix. Et l'année passée, j'étais nominée dans deux catégories, meilleur duo avec l'artiste Roman P pour le titre Oulala, Roman P qui, ben, pour rappeler, qui est un chanteur de l'île de la Réunion. Et j'étais nominée en Best Artiste Féminine aussi, pour mon titre Tichou.
Bon, Tichou, effectivement.
Oui.
Bon, enfin, tout à l'heure, on va entendre une de vos pièces, cela dit. Mais alors, c'est ça. Donc, là, d'autres projets d'albums, d'autres idées qui émergent?
Ben, actuellement, je suis en train de travailler sur mon EP. Je peux dire qu'il y a déjà 5 titres de terminés. Donc,
Ouais.
peut-être ça peut s'en aller sur un album, là.
Donc, un mini-album qui s'en
Oh,
viendrait.
ouais, c'est ça.
Et puis c'est ça, donc vous vous dites pas tout à fait, vous n'êtes pas vraiment angoissé finalement trop par l'avenir dans un sens, c'est-à-dire que, bon, votre inspiration, vous la laissez aller librement, c'est-à-dire que si vous êtes en panne d'inspiration, bon, vous vous dites, bon, c'est pas grave, ça va revenir, quoi.
Ben, moi, je suis pas l'artiste à. Oh, il faut absolument que j'écrive un texte par jour. Non, moi, c'est vraiment au feeling. En général, mon inspiration vient dans la nuit. Quand je dors, là, je suis en train de penser à une mélodie. J'étais comme, oh my god, faut vraiment que je me lève à 3 h du matin pour écrire. Really? Mais quand l'inspiration est là, elle est là. Puis je suis disciplinée, j'écoute mon inspiration.
Bon, vous avez une bonne raison de toute façon de vous lever là la nuit avec
Oui. Avec
votre
bébé, là,
avec
j'ai plus le
bébé, oui.
choix, là.
Alors des rythmes réconfortants, évidemment chaleureux aussi, et puis c'est ça. Donc les pièces là qui ressortent évidemment qui ont gagné la faveur déjà du public. Alors et puis là ben, vous avez parlé de Tichou,
Oui.
c'est ça. Racontez-moi. Puis parlez-moi. Ben je voulais juste aussi revenir sur
Oui.
le zouk compas. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc musique qui fait danser, je pense, hein?
Oui.
Oh non, c'est bien, c'est bien. C'est joli.
Ben, en fait, le zouk, déjà, c'est originaire plus de la Guadeloupe et de la Martinique.
D'accord.
Puis le compas, c'est vraiment.
Oh, ça va, ça va. C'est joli.
Puis le compas, c'est vraiment plus originaire d'Haïti.
D'accord. OK. Donc c'est un mélange des deux, là.
Exactement, moi, je fais vraiment un mélange des deux. Comme, en général, ma musique, on la reconnaît facilement parce que, bah, forcément, au début, c'est un peu zouk. Puis vers le milieu de la musique, il y a la partie dansante, la partie compas. Donc en général, tout le monde sait, ah ok, ça c'est une pièce de Lia Shirley parce qu'il y a cette différente partie-là. Et bah, comment l'expliquer? Bah, c'est une musique sensuelle, un peu, on pourrait même dire que ça, il y a des airs de kizomba, de salsa, c'est un peu les mêmes rythmes, mais vraiment plus sensuels, si
Ouais.
je pourrais
Et qui fait
expliquer.
votre musique?
Oula, je travaille avec plusieurs
Plusieurs.
personnes.
D'accord.
Ben, il y a des titres qui ont été faits par DPM,
OK.
qui est un compositeur de Terrebonne, qui est d'origine haïtienne. Je travaille aussi avec Jordi, qui est un jeune qui a 18 ans
Oh.
et qui est du côté de la France.
Merveilleux.
Puis, il y a vraiment plusieurs personnes
Plusieurs
qui
personnes. Donc, ça veut
interviennent.
dire plusieurs influences aussi. Ça veut dire
Oui.
que ça finit par être riche de toutes
De toute
de
culture.
toutes ces cultures-là. Alors, c'est vraiment intéressant. Et bon, est-ce que par ailleurs, est-ce que vous êtes inquiète par rapport, bon, pour gagner notre vie, ça, c'est une autre histoire. Évidemment, on sait que c'est l'industrie de la musique est en transformation et de plus en plus, pour gagner notre vie aussi, on doit plutôt aller vers le spectacle, vers la scène. Est-ce que vous avez prévu des spectacles prochainement?
Oui, j'en ai eu un déjà pour la fête de la Saint-Jean.
Ouais.
Là, ma prochaine scène, ça va être accompagnée d'un ami à moi qui s'appelle D. Joyce. Ce sera au Afromonde le 17 août.
OK.
Puis après ça, il y aura l'espace Terrasse Teranga en septembre. Mais par contre, bah, cette année, j'ai pas vraiment prévu de scène parce que, vu que je suis nouvellement
Bien sûr
maman,
qu'il faut faire une petite
donc
pause,
c'est
je
ça,
comprends. Ouais, il y a des
j'ai.
priorités
Et c'est
là.
ça. Mais par contre, l'année prochaine, j'ai déjà plusieurs dates de prévues, effectivement.
D'accord. On va écouter une de vos pièces et puis bon, alors, et puis on va saluer bébé. Bon,
Oui.
son nom?
Noémie.
Ah, c'est Noémie, c'est vrai. Vous me
Oui.
l'avez dit d'ailleurs en arrivant.
Oui,
Bon,
c'est vrai.
Noémie, alors, fort jolie petite fille de 6 mois. Alors, ben, je vous souhaite bonne chance dans votre carrière et puis
Merci beaucoup.
on va sur votre site pour avoir peut-être plus d'informations. l'émission. Et puis, si jamais vous avez des, bien sûr, des dates de spectacle, ben, évidemment, j'imagine que vous allez annoncer ça sur votre site personnel.
Ben, en fait, le site personnel est actuellement en construction.
Ah ben, parfait.
Mais je suis active sur les réseaux sociaux.
Vous êtes présente sur les réseaux sociaux.
Donc, sur l'IA Charlet officiel.
D'accord, on va tout trouver, bien sûr.
Oui.
Merci infiniment.
Merci
et puis, bonne chance dans cette carrière.
Merci beaucoup. Et puis, merci de l'invitation, surtout.
Ah ben, pas de problème. Et puis, ça a été un plaisir de vous accueillir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
À bientôt.
À bientôt.
L'IA Charlet. Tu as du swag, tu as du style. Tu réveilles en moi mon sex appeal. Lorsque tu m'observes, tu m'intimides. Tu me fais vivre un instant magique. J'aime quand tu me contrôles comme une marionnette attirée par ta peau et par tes caresses. J'aime quand tu me touches en délicatesse, que tes mains se baladent vers les courbes de mes vous et moi nous ja savent ça nous lit. Bloody girl, Arvini tout près. Et nous ja savent que là nous tout l'été. Chalet la qui est monté, l'ennui qu'on la journée. Si tu continues, je te plumerai. Et qui vous et moi, nous qui passons un moment magique. Entre vous et moi, ni en courant électrique. Tous les deux, nous prions de décoller. C'est avec vous que moi les voyager. C'est avec vous que moi les voyager. C'est avec vous que moi les voyager. Tu me mets dans tous mes états. Je ne me reconnais même pas lorsque tu es près de moi.
Yeah, Shirley, dans tous mes états.
Oui, c'est ça. Alors, juste le temps de mettre mes écouteurs. Pas faire de bruit, bien sûr, dans mon micro. Alors oui, et puis c'est ça, c'était notre invité de tout à l'heure. Alors c'est ça, l'IA Charlet, effectivement, fort adorable, avec sa petite fille de 6 mois également qu'on avait en studio. Et là, ben, on accueille nos deux chroniqueuses, Aya Jennifer Ando. Bonjour Aya.
Bonjour.
Et puis on aura aussi Anaïs Sabourin. Alors voilà, bonjour toi.
Bonjour.
Alors c'est ça, chacune, ben, vous allez parler, bien sûr, de sujets bien différents. On commence avec quelque chose de léger. Alors, ben, en apparence, à tout le moins, parce que c'est peut-être pas si simple que ça, c'est, bon, on parle évidemment de, c'est ça, de la chevelure des personnes noires.
Oui, on les appelle plutôt des cheveux afro ou des cheveux crépus, et je vais le dire, ils sont pas tous pareils, le toucher est différent, l'apparence est différente, et la texture aussi est différente. Avec ces caractéristiques, ils peuvent appartenir à différents types, et on va voir les types aussi. Non, je sais pas, Chantal, est-ce que toi tu connais tous les types de cheveux qu'il y a, juste pas les
cheveux noirs? C'est sûr que je me suis pas arrêtée à la chose, là, c'est vraiment, et puis je peux dire que, bon, chez les personnes noires, je sais qu'on aime le changement, on aime l'originalité, la diversité. Bon, alors, peut-être que oui, ça, c'est, je n'en doute pas qu'il y a des différences peut-être dans la chevelure. Alors, et puis bon, ça semble évidemment tout l'entretien, tout ça. Mm-hmm. Mais tu vas tout nous raconter ça.
Oui, oui. Donc, en ce moment, il faut savoir qu'il y a comme 4 types de cheveux. Et dans ces types de cheveux-là, il y a des sous. groupe de cheveux. Donc, le seul type de cheveux qui n'a pas de sous-groupe, c'est le type de cheveux 1, donc c'est les cheveux raides. Donc, ces cheveux-là, la plupart des personnes caucasiennes l'ont. Donc, ouais. C'est juste genre des cheveux lisses. Donc,
OK. Ça, mais puis voir. Encore là, j'imagine qu'il y a différents types. Bien sûr, on a, je pense, un A, un, enfin, un B.
Non,
ou,
non, absolument pas. Pas. Du tout, lui, il n'y a pas de sous-catégorie.
Il n'y a pas de, sous-catégorie. Ah, d'accord.
Sinon, le type 2, lui, il a trois sous-groupes. Donc, okay. Les cheveux ondulés. Donc, tu peux avoir le 2A. Donc, c'est les cheveux, le cheveu le moins ondulé. Et après, jusqu'au 2C, où tu as le cheveu plus, un peu plus ondulé, puis vraiment l'autre qui est avec...
Oui, ça, c'est pour les gens, évidemment, caucasiens. Là. Bon,
oui,
ça
aussi.
Bon.
Aussi.
Et quand on arrive chez les personnes noires, là, on est rendu où?
Au type 4.
Ah, OK.
Donc, le type 3, c'est les cheveux bouclés, donc du type 4. Du type 3A au type 3C. Sinon, le type 4, c'est les cheveux crépus, donc du type 4A au type 4C. Et on y vient vraiment sur ce type de cheveux-là. Donc, au fait, ce type de cheveux-là, il représente les cheveux les plus... des boucles plus serrées au moins serrées un petit peu. Et c'est des cheveux que souvent, on a plus... on n'a pas vraiment la facilité à les entretenir parce que le sébum, il est... Il n'arrive pas à glisser sur tous les cheveux. Donc, ça provoque des cassures et il faut vraiment beaucoup d'entretien pour cela.
Ah, c'est pour ça, parce que c'est pour ça qu'on met tant d'énergie là, avec différents produits, parce que sinon, le cheveu deviendrait très cassant.
Oui, absolument.
Ah,
donc, le type
ouais.
4A, ses caractéristiques sont des boucles bien définies en forme de S. Ce type de cheveux a également deux textures, donc il peut être un petit peu fin ou soit il peut être un petit peu plus élastique. Sinon, il subit facilement des cassures, comme je t'ai dit, à cause du sébum. Et le type 4, il retient un peu plus l'hydratation que les autres types de cheveux. Donc, lui, si tu mets des produits, ben, ça va rester pour un bon moment. Tandis que le type 4, lui, il a des cheveux souvent élastiques, mais aussi quand tu laves tes cheveux, après un shampoing, ben, tu peux avoir un skin scratch. Donc, c'est comme un rétrécissement de cheveux.
Ah bon?
Oui, ce skin scratch-là, on l'a beaucoup. Moi, par exemple, je l'ai. C'est comme, ça rétrécit mes cheveux à peu près à 70% de ma longueur. Donc, je peux avoir des cheveux qui sont comme touffus, mais quand tu les étires, ils sont plus longs qu'ils doivent... Ils doivent l'être.
Ah,
donc,
d'accord.
On, okay, on
mais à la fin, on dit que, bon, c'est ça, le cheveu de type 4, bon, a l'air épais, mais c'est ça, il n'est pas nécessairement épais.
Non, c'est vrai. C'est quand on les met sur... On les attrape souvent, qu'ils sont plus épais. Sinon, souvent, quand tu prends une seule mèche, c'est vraiment fin. Là. C'est tout petit. C'est pas gros, ces affaires-là. C'est juste quand ils sont ensemble.
Que ça fait, ouais,
ça fait l'effet
épais. Je comprends. Ouais.
Du truc.
Alors, c'est ça. Donc, des types de cheveux qui se divisent en différentes catégories. Alors, ben, on va continuer un peu après la pause, hein,
oui.
Ailleurs, parce que c'est vraiment fort intéressant. Alors, à tout de suite.
Vous écoutez Aime l'été.
Oh, oh, yeah, yeah. Black girl,
magic.
I like my eyes and my skin and all within. People talk about the way I am. Natural hair in my chocolate skin. Walk is crazy, shit in my hips. Ain't nothing like a woman with some nice full lips. I'm proud to say I'm from the motherland. Nappy hair, guess it ain't so bad. Cause now they all want the braids and the dreadlocks. Paying money just to get the curves that I got. That's why I keep my head up high, elevated. Rock your curls and waves, you so fly, celebrated. We gon' stand up strong, all my girls, very proud. Run this world. You feeling that? Yeah, that's on me.
coronation from all my roots. Supplemented with the sweetest fruits. Royal blood running through my veins. So don't you forget I was made this way. That's why I keep my head up high, elevated. Rock your curls and waves, you so fly. Celebrate it. But don't stand up strong. All my girls, very proud. Run this world. She got that magic. Oh, yeah. Look. So with you, with me.
Et de retour avec Aya Jennifer Ando, on parlait de chevelure, la chevelure des personnes oui. noires. Alors, c'est un sujet quand même intéressant et méconnu, en fait. Tu nous as parlé de différents types de chevelures. Oui. Ça, vraiment, j'étais pas du tout au courant, là. Bon, selon, il y a des catégories, là, pour les Caucasiens, on parle de 1, c'est le chiffre.
Type 1, le type 2 aussi.
Le type 1, le type 2 et tout. Et puis, pour les personnes noires, ben, c'est le type 4, voilà. Et puis bon, tout ça, évidemment, ça veut dire aussi différents types de coiffures.
Oui, absolument.
C'est notre identité, hein, les cheveux. Et puis je pense que selon l'endroit, selon l'endroit où vous vivez, ben, il y a des stéréotypes, hein, il y a des modes aussi.
Oui, oui, on suit beaucoup la mode. Puis il faut savoir que qu'est-ce qu'on aime avec ce type de cheveux-là, c'est qu'on peut faire vraiment toute coiffure et on peut genre temporairement comme lisser nos cheveux pour qu'ils partent du type 4 au type 1. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Puis, puisqu'on a une chevelure qui se casse facilement, mais on est obligé de faire des coiffures protectrices, donc des braids. Toujours, nos cheveux sont en bas, on les laisse pas trop...
À l'air libre.
À l'air libre.
Ça veut
aussi.
Dire que donc, on peut se. C'est ça, on les dissimule un peu. Les vrais
oui,
cheveux, là,
on les dissimule beaucoup. Souvent, il y a du monde qui vont porter des perruques. Ça aussi, c'est bien, là. C'est comme toute personne cherche sa coiffure protectrice en même temps. Mais moi, par exemple, j'ai comme une anecdote pourquoi souvent je préfère laisser mes cheveux en bas. Parce que j'ai une fois laissé mes cheveux en afro pour aller à l'école. Puis je suis une personne qui s'asseyait vraiment. En avant
toujours
de la classe.
L'avant de la
toujours
classe.
En avant de la classe. Et là, j'ai caché la vue à plusieurs personnes.
Donc, c'était un peu gênant, c'est ça?
Oui,
donc,
c'est ça.
Mais bon, mais c'est vrai qu'on a moins tendance, mais il y a eu une mode aussi
oui,
de porter les cheveux naturels. En fait, quand tu dis en bas, c'est de porter ses cheveux naturels.
Oui, oui, de porter ses cheveux naturels, mais ils sont tressés, ils sont vraiment comme... plat, tu les vois pas. Souvent, c'est comme okay. ça. Il y a d'autres personnes. Je pense que la semaine prochaine, je vais vous parler aussi du fait pourquoi les personnes ne veulent pas porter vraiment souvent leurs cheveux naturels. Mm-hmm. Il y en a d'autres qui en ont honte. Ça arrive là, que le monde, il veut juste... ils veulent pas qu'on voie ces cheveux-là. Souvent, s'il y a
ça,
des personnes qui
touchent,
c'est culturel.
Oui, puis
de
des
dedans.
Fois, vous, je sais que vous portez un regard aussi sur les autres. Bon, c'est-à-dire selon la manière de porter ses cheveux.
Oui,
hein,
oui absolument.
Bon, c'est comme n'importe quoi. C'est comme les jeunes avec leur habillement, au fond. Mais vous, c'est votre chevelure.
C'est notre chevelure.
Alors,
oui.
Il y a ça qui... et puis bon, ça, comme tu disais, ben, ça prend des produits pour hydrater. Pour, ben, bien sûr, parce que finalement, à cause du fait que c'est frisé, oui. ben le
sébum,
le
sébum pas
qui
à
nourrit
glisser.
Le cheveu, finalement, n'arrive pas à
glisser le long de la cheveux.
Ouais, c'est ça. Alors, ça fait des cheveux plus cassants.
Oui.
Donc, alors, c'est ça. Puis, évidemment, on parlera de toutes ces coiffures, là, très, parfois très originales, mais finalement, qui ont un coût. Hein, ça coûte
oui,
assez cher.
Ça coûte vraiment
cher. Et puis,
ça
prend du temps aussi. Hein, c'est long. Alors, on va en reparler. Là, on va parler avec Anaïs. Mm-hmm. Bon, on parle de coût, tiens.
Oui,
bon,
oui.
On fait un lien avec le coût du handicap, parce que c'est là aussi, ça coûte quelque chose, finalement.
Oui,
on s'en sort pas.
Ça coûte de l'argent, oui, en fait. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'argent. On le sait, au Québec, c'est un sujet qui est assez tabou, c'est un sujet qui est complexe, duquel on parle pas beaucoup. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de revêtir mon veston rose, puis mes Converse, puis d'arriver en studio, puis de me dire, je vais vous parler d'argent. En fait, je veux vous parler du coût du handicap. Mais c'est quoi au juste? Je veux en premier vous expliquer c'est quoi pour moi. En fait, pour moi, c'est toutes les dépenses qui viennent vraiment du fait qu'on a un handicap. C'est tout ce qui en découle. Donc, c'est toutes les choses que les personnes comme Jennifer ou Chantal n'ont pas besoin de se procurer parce qu'elles n'ont pas de handicap personnellement. Donc, j'ai envie de vous donner des petits exemples et des petits chiffres pour vous permettre de mieux comprendre c'est quoi tout ça. Donc, parce que oui, surprise, il y en a beaucoup de dépenses et ça chiffre très haut. Donc, on peut commencer par un exemple qui est assez simple. L'exemple du permis de conduire et du fait de conduire, qui est probablement l'exemple qui coûte le plus cher. Parce que pour moi, conduire, ça m'a coûté extrêmement cher. En fait, les équipements dans ma voiture coûtent 6 000
Oh, OK. Alors là, vraiment, parce qu'il faut...
Le prix du permis.
C'est ça?
6 fois le coût du permis.
Ah oui, exactement. Parce que ça prend il faut adapter la voiture.
Oui, ça prend des équipements spécialisés qui sont certifiés, qui sont légaux avec la SAQ. Donc, il faut vraiment tout s'assurer de ça. Moi, ces deux équipements-là, c'est une commande qui est aux mains et un treuil à l'arrière de ma voiture pour me permettre d'embarquer mon fauteuil sans me blesser. Donc, c'est vraiment pour éviter de me blesser aux épaules parce que ça peut être difficile à la longue. Mais le 6 000 en fait, il exclut le permis de conduire. Parce que le permis de conduire aussi a un coût supplémentaire. Parce que la majorité des personnes vont payer, comme tu l'as dit, Jennifer, 1 000 environ. Moi, ça m'a coûté environ 4 000 faire mes cours de conduite. Oui, on voit ton visage en ce moment. Donc oui, ça m'a coûté environ 4 000 parce que les cours spécialisés sont plus chers. Ça m'a pris des rendez-vous en ergothérapie, des suivis au privé, au public, des déplacements. Donc, ça chiffre très haut et très rapidement. Donc, faites le calcul rapidement. Ça a coûté, j'y vais avec un chiffre quand même conservateur, là, 10 000, mais je pense que c'est un peu plus que ça que ça m'a coûté de faire mon permis en général. Mais, tu sais, on parle d'une dépense comme le permis de conduire qui est, selon moi, pas nécessairement un besoin essentiel. Mais on parle de besoins essentiels aussi dans certains cas. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une situation qui m'a été partagée personnellement. En fait, je connais une jeune femme qui est à l'aube de sa majorité, qui, elle, est en fauteuil roulant, qui est lourdement handicapée. Puis, sa mère a appris récemment que parce qu'elle avait fait des placements pour sa fille, pour lui permettre d'y assurer un bel avenir, en fait, elle n'avait pas le droit aux subventions.
Ah bon, dis donc, ça vaut la peine hein, de mettre de l'argent de côté pour ça?
Alors, mais en fait, cette personne-là n'aura pas le droit au revenu minimum garanti qui est la solidarité sociale parce qu'elle a des placements qui sont trop élevés selon le gouvernement et n'aura pas le droit à tout ce qui en découle. Donc, certains soins de santé gratuits, certains éléments gratuits comme les couches. C'est quelque chose à laquelle on pense pas parce que les couches, c'est pas tout le monde qui en utilise, on le sait, mais les gens qui en utilisent, en fait, c'est 5 couches par jour, puis un paquet de couches, c'est 15 couches. Donc, faites le calcul rapidement, là, ça monte très vite.
Oh, effectivement, et quand c'est vraiment à notre frais, à nos frais, et puis ben, c'est ça, vraiment, c'est un petit peu choquant là, de réaliser que oui, si on essaie de mettre de l'argent de côté pour assurer quand même un avenir intéressant, et là, finalement, on en revient à juste pouvoir assurer les services de base.
En fait, oui, bien, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'aux yeux du gouvernement, il faut essentiellement être pauvre pour avoir droit aux subventions? Est-ce qu'il faut essentiellement être pauvre puis attendre d'être complètement inapte? Parce que moi, personnellement, la raison pour laquelle j'ai pas droit aux subventions, c'est parce que je suis trop autonome. Mm-hmm. Donc, c'est soit que t'es trop autonome, soit que t'as trop d'argent, soit que... Donc, il y a tout le temps des problèmes au niveau de cette subvention-là, de cet argent-là auquel, théoriquement, on a droit parce que cet argent-là nous appartient et on le paye. Moi, je le paye à toutes mes payes sur mes impôts. Toi, tu le payes aussi, Chantal.
Bien sûr.
La société, c'est un coût qu'on partage. Donc, moi, je trouve ça assez ironique de considérer qu'aux yeux du gouvernement, il faut attendre d'être sous le seuil de la pauvreté pour avoir droit à ces subventions-là. Là, c'est toujours d'attendre d'être au dernier recours. Puis, je vous ai présenté des dépenses, mais il y a aussi l'adaptation du logement, le fait de trouver un logement qui est souvent plus cher, le simple fait de se déplacer, parce que moi, je peux pas prendre le métro.
Ouais. Je peux pas prendre l'autobus régulier. Je peux pas me permettre ça. Donc, je dois prendre ma voiture pour aller à Montréal. Ouais. Je dois me déplacer, je dois me stationner, je dois payer un stationnement, je dois trouver un stationnement. Donc, ça, c'est très, très laborieux. C'est du temps. C'est tellement beaucoup de temps. La paperasse qu'on doit toujours remplir. Puis, comme on le dit, le temps, c'est de l'argent. Hein? Fait que tout ça, c'est des rendez-vous, des moments que je peux pas prendre pour moi, que je peux pas prendre pour travailler, que je dois prendre pour, encore une fois, remplir des papiers puis essayer d'avoir de l'argent parce que souvent, ça fonctionne pas.
Ouais. Ce qui est, en fait, on sait que quand on devient handicapé, si on veut, à la suite d'un accident de voiture, bon, ben, il y a d'autres mécanismes qui entrent en ligne de compte. Mais quand on est handicapé de naissance, ben là, on est un peu désavantagé. Hein? C'est fou.
Oui, ben, on est désavantagé. Moi, je le dis tout le temps. C'est comme si j'avais choisi d'être handicapé, mais en fait, j'ai jamais fait ce choix-là. Mais j'ai rien de couvert, moi, ou presque. Là, j'ai certains éléments couverts par la RAMQ. Je suis chanceuse. Mon fauteuil roulant est couvert par la RAMQ, par exemple. Donc, mais il y a certaines personnes que je connais que c'est pas le cas. Mm-hmm. Donc, ça dépend des situations, ça dépend des gens. Mais tu sais, le fauteuil roulant vaut 10 000 $ seulement ça. Hey. Donc, si c'est pas couvert, c'est extrêmement coûteux, c'est extrêmement cher. Donc, c'est quand même difficile là, de faire face à tout
c'est
ça.
C'est ça. Puis, on parlait de la voiture, du permis de conduire, tout ça. Mais il y a des évaluations aussi pour prouver qu'on est apte à conduire. Parce que bon, c'est pas juste d'apprendre à conduire, mais il y a d'autres documents aussi qu'on doit fournir qui entraînent aussi des coûts.
Toujours. Tu sais, un simple rapport, 75 $ 80 $ ça s'additionne à chaque fois. Puis, tu sais, certaines personnes vont se dire « Ouais, il y a des subventions pour faire adapter les véhicules. » Oui. Mais il y a toujours un « mais ».
Il y a toujours un « mais »,
parce qu'il y a des énormes listes d'attente. Il y a un 2 ans d'attente actuellement. J'ai appelé la semaine dernière, pour moi personnellement, puis il y a un 2 ans d'attente qu'on doit faire. Et en plus, on doit se procurer un véhicule qui est presque neuf. Il y a certaines conditions à respecter. Il y a des rendez-vous à aller. Donc, c'est du temps, encore une fois. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie à mettre là-dedans. Puis je veux aussi dire que souvent, les subventions qui nous sont données, bien, elles sont pas suffisantes.
En plus...
Il faut toujours débourser notre poche. Tu sais, c'est une partie, c'est un 50 %, c'est un 30 %, un 15 %, mais encore une fois, il y a des dépenses qui viennent de notre poche. Tu sais, moi, j'utilise un banc de douche que j'ai dû payer de ma poche parce que il n'y a pas cette subvention-là. Parce que moi, je vis chez mes parents et dans une résidence étudiante et il y a un des deux qui n'était pas couvert. Donc, il y a un des deux que j'ai dû payer de ma poche. Il y a toujours cette question-là de... où la responsabilité gouvernementale commence et où elle s'arrête, puis on n'arrive pas à le dire même personnellement. Ouais.
C'est sûr que c'est un problème qui est généralisé, hein, bien des toutes sortes, on pourrait citer bien d'autres exemples, mais enfin, c'est vraiment intéressant que tu nous sensibilises à ce problème-là. Oui. Parce qu'on le voit pas toujours, là.
Non, pas du tout. Puis j'aurais aimé ça être capable de vous dire avec certitude que la majorité des personnes handicapées vivent sous le seuil de la pauvreté, mais malheureusement, il n'y a pas de données à jour disponibles.
Ah, ben voilà.
Il n'y en a pas. Puis je trouve ça totalement dommage parce qu'on le sait, c'est environ 15 % de la population qui est en situation de handicap en date d'aujourd'hui, mais toutes les statistiques que j'ai pu trouver dataient de 2016. Donc, c'est pas à jour, c'est extrêmement... plus le cas là, avec toute l'inflation et tout ce qui nous touche actuellement. Donc, pour cette raison-là, ben, la journaliste en moi ne peut pas, avec conviction, vous affirmer que les personnes en situation de handicap sont sous le seuil de la pauvreté ou en situation de précarité. Mais je pense que par expérience personnelle,
je pense qu'on peut s'en douter fortement.
Ouais.
Merci Anaïs et puis merci Aya. Ça a été un plaisir de vous accueillir et puis on attend vos prochaines chroniques avec impatience. Voilà, merci.
Merci.
À la semaine prochaine.
Les nuits avancent comme des camions blindés sur les filles. Les nuits avancent comme des camions blindés sur les filles. Les loups prennent tout. Ta chambre est vide, couchée sur ton lit, elle écoute la tempête venir. Toi tu marches fière, les fossiles qui claquent, tes talons comme des pics. Dans la glace de décembre, tu t'échappes du sentier, tout en toi recule. Tu ne reviendras pas, la forêt brûle. Ta gloire.
Eh bien voilà, on accueille cette fois Charline Savard, directrice de service chez Service Linguistique CB. Charline qui est malentendante, alors on a le plaisir d'avoir son interprète, bien sûr. Alors Michel Dion qui est avec elle. Donc, alors bonjour Madame Savard. Alors fait plaisir de vous accueillir. Et puis bon, ben, justement, parlez-nous de ce service. En fait, qu'est-ce que vous faites exactement dans votre service linguistique?
Oui, bonjour. Ça fait plaisir là, d'être ici pour vous présenter le service linguistique CB. Ça a été créé en 2016. La propriétaire, c'est une personne sourde qui s'appelle Cynthia Benoît, qui a un diplôme là, en MBA. Et depuis les débuts, là, elle était seule. Elle a embauché plusieurs employés sourds. Et c'est la 7e année cette année et ça a toujours été le même objectif qui était là, d'accompagner les institutions, les entreprises et les individus dans leur démarche d'amélioration en matière d'accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes grâce à une vaste gamme de services linguistiques de qualité.
Voilà. Et puis donc, ça, en fait, c'est vraiment pour favoriser l'intégration, l'inclusion des gens qui souffrent finalement de ce handicap à intégrer, c'est ça, le marché de l'emploi, et puis d'accéder aussi à différentes fonctions parce qu'on sait, on en a parlé ces derniers jours, là, bon, il n'y a pas que du travail manuel, mais il y a des gens qui, en fait, je pense à Cynthia qui a également, bon, créé une entreprise qui est une gestionnaire, vous l'êtes aussi, et puis donc, ça veut dire que, bon, on peut aspirer à de hautes sphères quand même dans des entreprises, même si on a un problème de surdité. Il suffit simplement d'adapter.
Effectivement, les capacités intellectuelles sont les mêmes, même si on a une surdité, on n'a pas des capacités réduites. C'est simplement l'oreille qui ne fonctionne pas bien. Et il y a différents types de surdité selon chaque personne également. C'est certain que, bon, pour une inclusion sociale, il y a la diversité, l'inclusion qui est des enjeux très actuels. Puis, il y a plusieurs là, chemins pour pouvoir justement atteindre certains objectifs. Et nous, chez SLCB, on a comme trois grandes possibilités, qui est l'adaptation. On travaille 4 langues, qui est le français, l'anglais, la LSQ et l'ASL. L'ASL, qui est l'American Sign Language, qui est plus la langue des signes pour les personnes anglophones. Et pour les personnes sourdes francophones, c'est la LSQ, la langue des signes québécoise. Il y a plusieurs là, informations, ressources qu'on peut aller chercher à différentes institutions qui connaissent, les personnes sourdes ne comprennent pas les textes écrits, qu'à ce moment-là, on fait les adaptations en langue des signes pour permettre une meilleure compréhension de la communauté sourde. On offre aussi de la consultation pour pouvoir s'arrimer aux normes et tout ça. Puis dernièrement, on a fait une collaboration avec le REQI, qui est le Réseau québécois pour les personnes sourdes. Le REQI, qui permet là, une accessibilité pour les personnes sourdes à travers le Canada. On a plusieurs recherches en cours et aussi là, on fait de l'accompagnement en milieu de travail ou dans des organismes pour faire des sensibilisations auprès des personnes entendantes, à savoir comment on travaille avec une personne sourde, que c'est possible d'engager plusieurs personnes sourdes et c'est important de les avoir sensibilisées pour qu'il y ait le point de vue des personnes sourdes et qu'il y ait des changements dans les milieux de travail.
C'est ça,
et
donc
on leur permet aussi d'apprendre la langue des signes pour pouvoir communiquer avec les personnes.
Oui, exactement, parce que moi, je trouve ça intéressant. D'abord, je veux juste recadrer les choses. Bon, parce que au même moment, Madame Dion, parle avec Charline Savard, par les signes, bien sûr. Alors, c'est elle qui fait la traduction, si on veut. Et puis, d'ailleurs, votre métier, je pense que est de plus en plus présent. Là, on l'a vu, vous étiez très visible pendant la pandémie. Hein, tous ceux qui, finalement, ont appris ce langage des signes. Il y a des formations qui se donnent dans les institutions, même, je pense, dans les institutions scolaires et puis cégep et tout. Là. Alors, Alors, on peut apprendre vraiment ce langage des signes. Et je ne savais pas qu'il y avait différents langages des signes. Finalement, vous en avez parlé tout à l'heure. Alors, pour les anglophones, mais en fait, il y a le langage des signes français là, de la France, mais il y a aussi le langage des signes québécois. Alors, c'est très intéressant, finalement. Alors, cela dit, oui, c'est ça. Parlons de toutes
J'aimerais juste, excusez-moi, amener une petite précision.
Allez-y.
Le bon terme à utiliser est langue des signes.
Ah là, moi, j'ai dit le langage des signes. C'est ça.
Oui, c'est ça. Le bon terme, là, c'est vraiment les langues parce que c'est au niveau neurologique, c'est plus le langage. Mais une langue, c'est que ça a sa propre grammaire, sa propre structure, sa propre syntaxe, des vocabulaires, des expressions faciales qui sont l'équivalent d'une langue orale. Le bon terme à utiliser, c'est langue.
Bon. Est-ce que vous avez, parfait, j'en prends note, toujours intéressant d'en apprendre, hein? Bon, toujours très ouvert, c'est ça, à se corriger. Et puis, bon, parlez-nous justement de les entreprises qui font appel à, finalement, qui réussissent à s'ouvrir à cette nouvelle réalité-là. D'ailleurs, j'en parlais hier avec ma chroniqueuse qui traite de sujets liés au handicap. Justement, ça peut amener finalement des entreprises à être au niveau des employés même, à avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus grande, où en fait, ça amène une dynamique différente, je pense même au sein des entreprises, d'avoir des gens comme ça qu'on intègre qui ont ce handicap.
Oui, certainement, on embauche, lorsqu'on embauche des personnes sourdes, ça permet là, d'avoir à l'entreprise une autre perception des choses, aussi de permettre d'avoir une meilleure accessibilité pour les personnes handicapées. Les personnes handicapées font partie de l'équipe, intégralement de l'équipe. Et bien souvent, là, les employeurs là, vont embaucher des personnes sourdes, mais ils vont dire « Ah, mais comment qu'on va communiquer? Ça va être des dépenses de plus. » Mais il y a Emploi Québec qui a des contrats d'intégration au travail qui peuvent débourser, qui comblent les coûts que ça peut engendrer d'avoir les services d'interprétation pour différentes réunions, pour des soirées sociales et tout ça. Fait que ça permet justement cette intégration-là en embauchant des interprètes.
C'est ça.
Et juste avant, vous parliez là, de la visibilité des interprètes durant la période de la COVID. Effectivement, ils ont été très présents. C'est sûr que c'était plutôt négatif d'avoir la situation de la COVID, mais ce qui a été positif pour nous, ça a été la visibilité de la communauté sourde à ce niveau-là. Et puis en 2019, la loi canadienne sur l'accessibilité, la C81, a reconnu la langue des signes, la LSQ, la ASL et également les langues des signes autochtones comme trois langues utilisées au Canada, ce qui veut dire que les différentes institutions gouvernementales, surtout fédérales, sont dans l'obligation d'assurer là, toute une accessibilité, tout ça avant 2040. Fait que c'est sûr que là, il y a des plans d'accessibilité qui sont mis en place, des sites Internet qui vont être aussi plus accessibles en langue des signes. Fait que c'est sûr que les actions là, commencent à avancer et on espère là, que ça aura un impact là, au niveau provincial également, qui pourront prendre le modèle fédéral et l'instaurer là, au niveau provincial.
Exactement. Il y a beaucoup à faire, hein, parce que, bon, on l'a vu pendant la pandémie, c'était essentiel, bien sûr. Et puis, bien entendu, il y a d'autres épisodes. Il y aura peut-être d'autres épisodes à venir. Alors, très important, la communication, c'est la base de tout, hein. Et puis, bon, vous avez donc 20 ans d'expérience. C'est-à-dire que je sais que votre PDG, là, Cynthia Benoît, est quand même quelqu'un qui compte pas mal d'années d'expérience dans ce domaine. Et puis, bon, on pourrait dire, est-ce qu'on peut donner un chiffre approximatif du nombre d'entreprises qui font appel à vos services ou qui sont prêts à intégrer comme ça des gens souffrant de surdité. Pas souffrant, mais ayant un problème de surdité.
Oui, c'est ça, qui intègre les personnes sourdes et malentendantes. C'est certain que SLCB, bon, depuis sa fondation en 2016, le chiffre d'affaires a constamment augmenté. C'est là qu'on peut voir, excusez-moi, là, un petit problème technique. L'image, elle est figée. Ah, d'accord, c'est revenu. C'est bon, c'est ça. Depuis 2016, ça a beaucoup progressé, ce qui veut dire qu'on voit là, les besoins sont très présents. On est très sollicités dans différents réseaux. Souvent, ça peut être des organismes à but non lucratif. des institutions fédérales, provinciales, d'autres organismes, des compagnies privées, que ce soit là, à des petites entreprises ou de très grandes, on offre plusieurs services. Mm-hmm. Puis je dirais que pour une année, ouais. on pourrait avoir de 300 à 500 là, demandes.
D'accord. Ben, il faut déboulonner les mythes. Hein. C'est facile de pouvoir intégrer finalement des personnes malentendantes. Alors, c'est vraiment de s'informer comme il faut. Service linguistique CB, Charline Savard, Michel Dion, merci bien d'avoir été des nôtres. Et j'en profite pour souhaiter une bonne journée à tous nos auditeurs. On se retrouve demain à la même heure, entre midi et 13 heures. Aime l'été!